France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, sur France Culture, en ce dimanche 16h, Jean-Luc Gadreau pour vous conduire dans ce sixième et dernier rendez-vous de Soleil, le carême protestant, en partenariat avec la Fédération protestante de France et les éditions Olivetan. La paroisse de l'Église protestante unie de l'Annonciation a confié cette année ses interventions à la pasteur Nathalie Chaumet, pasteur à Paris dans l'Église protestante unie de l'Étoile. L'audace de vivre, des gestes pour espérer, c'est le titre générique que Nathalie Chaumet a choisi pour nous inviter à visiter à partir de l'évangile de Luc ce chemin de Pâques. Un carême protestant cette année qui est porté musicalement par Pauline Griffith, harpiste professionnelle et enseignante au conservatoire de Chatou, et puis avec également les lectures des passages bibliques ou autres textes par Florence Guémy, coordinatrice de ces carêmes protestants pour l'église protestante de l'Annonciation à Paris. Nous sommes là au dernier geste cet après-midi. Une phrase, une attitude qui va résonner au micro de Nathalie Chaumet. Ils se levèrent aussitôt. Quand nos vies sont défaites par l'échec, la peur et la mort, comment renouer avec la force de vivre ? Dernière fois pendant ce carême. Bonjour Nathalie.
Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Florence également.
Bonjour Jean-Luc.
Chère Nathalie, nous arrivons en effet à la conclusion de ce parcours. La semaine dernière, nous avons écouté le récit de la nuit de l'arrestation de Jésus. À travers les gestes posés cette nuit-là, nous avons réfléchi à la manière dont notre humanité peut si vite glisser dans la violence en posant des gestes irrémédiables. Et nous avons réfléchi au courage qu'il faut parfois pour refuser de participer de près ou de loin à cette violence, pour suspendre les gestes mortifères, pour discerner les chemins de la vie. Aujourd'hui, pour cette dernière rencontre de nos conférences de carême, nous allons renouer avec l'espérance et la joie.
Et oui, Jean-Luc, car le thème de ces conférences, c'est bien l'audace de vivre, des gestes pour espérer. Mais tout d'abord, je voudrais préciser et rappeler que nous avons pris un peu d'avance par rapport au temps liturgique. Aujourd'hui, c'est le jour des rameaux. Dans les paroisses, chacun a fêté ce matin l'entrée de Jésus à Jérusalem. Tout au long de cette semaine, nous allons écouter les différentes étapes de la Passion, le dernier repas, cette nuit de l'arrestation que nous avons évoquée, la confrontation avec Hérode et Pilate, la montée vers le Golgotha. Et puis, vendredi, nous nous tiendrons en prière, à l'écoute de ce récit de la crucifixion. Après le silence du samedi saint, ce sera alors soudainement l'espérance de Pâques, Christ est ressuscité, voilà ce que nous chanterons avec joie dans quelques jours, Jean-Luc.
Et donc cet après-midi, nous prenons un peu d'avance sur cette espérance de Pâques, car c'est avec cette espérance que nous voulons clore ce chemin de carême et envoyer les uns et les autres.
Oui, nous allons terminer notre carême avec ce magnifique récit des pèlerins d'Emmaüs. Et nous allons nous attarder plus particulièrement sur un geste à nouveau, un geste qui peut nous paraître anodin, c'est celui que font les disciples attablés à l'auberge avec Jésus, lorsque soudainement ils vont se lever.
Avant que nous n'écoutions cette histoire, Nathalie, nous pouvons réfléchir sans doute sur le sens de ce geste de manière générale dans notre vie quotidienne. Car en effet, ce geste de se lever est finalement quelque chose de bien ordinaire, de quotidien, quasi permanent, si nous n'en sommes pas empêchés, bien sûr. Tant nous nous levons et nous nous relevons dans la journée.
Justement, Jean-Luc, c'est ce qui est intéressant avec ce geste. C'est vrai, se lever, c'est un geste que nous faisons un nombre incalculé de fois. Et même s'il est probable que peut-être la fréquence de ce geste diminue un peu aujourd'hui parce que nous sommes beaucoup immobilisés par les écrans, il ne reste pas moins que nous nous levons de notre lit, nous nous levons de notre fauteuil, nous nous levons de la chaise de notre bureau, nous nous levons de table, du siège de l'autobus, de notre canapé. Mais Jean-Luc, ce geste que nous répétons ainsi tout au long de la journée n'a en réalité, je crois, rien d'anodin. Car il dit le mouvement de la vie en nous-mêmes. Se lever finalement, Jean-Luc, c'est simplement être vivant. Nous nous tenons debout dans la verticalité de notre existence et c'est une manière de répondre présent au monde. Et c'est d'ailleurs un geste d'autant plus significatif que c'est le premier geste de la journée. C'est donc à la fois un geste de clôture et un geste d'ouverture. C'est le geste qui sépare la nuit du jour, le repos de l'activité, l'immobilisme du mouvement de la vie. C'est un geste finalement extrêmement symbolique. Dans ce geste, nous nous séparons des brumes du sommeil et nous nous présentons à la vie. Nous répondons à cet appel, nous disons « d'une certaine manière, me voici ». Nous accueillons le jour avec parfois ce qu'il contient de crainte, mais aussi avec toutes ses promesses. Se lever, c'est donc se placer à la jointure du présent et de l'avenir. Je dirais que se lever, c'est accueillir l'aube.
Oui, mais alors Nathalie Chaumet, se lever lorsque personne ne nous attend, ce n'est pas si facile. À l'inverse, dans nos sociétés aujourd'hui suroccupées, dans cette course croissante où il faut chaque jour faire plus, beaucoup se lèvent avec le poids du jour à venir sur les épaules.
C'est vrai. Et c'est tout le paradoxe de nos sociétés où certains sont suroccupés alors que d'autres affrontent la solitude. Et nous pouvons aussi penser à ceux et celles pour lesquels l'acte même de se lever est compliqué, difficile. Je pense aux hommes et aux femmes qui dorment dans le froid, dehors, parfois, qui doivent, en se levant, affronter les intempéries. Nous pensons aux enfants également, bien sûr. Je pense à ceux et celles que la maladie affaiblit et où l'acte même de se lever n'a plus rien d'évident, qui doivent mobiliser toute leur volonté pour se lever ou faire quelques pas. Nous pouvons également penser à ceux et celles qui vivent dans des situations de guerre et qui ne savent pas, Jean-Luc, s'ils se lèveront encore le lendemain, qui se lèvent dans l'angoisse de chaque heure. Ainsi, il est des situations où ce geste que nous considérons par sa répétition comme anodin devient alors l'expression du courage réellement, l'expression de la résistance de soi-même face à la précarité, à la maladie ou à la violence. Ainsi, nous mesurons à quel point le fait de pouvoir se lever est une chance dans la simple manifestation que nous sommes vivants. Et peut-être que cela nous fait réfléchir également à ce qui nous tient debout, Jean-Luc, c'est une question importante. La vie n'est pas toujours facile, il y a des difficultés, des combats à affronter, des défis à relever. Alors qu'est-ce qui nous tient debout? Qu'est-ce qui nous donne de nous lever et de nous relever au jour le jour? Si nous pouvons nommer ce qui nous aide à être debout au quotidien et à répondre positivement à cet appel à vivre que Dieu nous adresse, alors nous veillerons aussi d'autant plus sur ceux et celles que nous aurons nommés, nous en prendrons soin.
Mais justement, j'insiste un peu, il y a des moments où le poids de la vie est tel que nous ne pouvons plus nous lever carrément. Les épreuves sont parfois si difficiles, trop difficiles.
Oui, Jean-Luc, c'est vrai, parfois la maladie ou le chagrin nous terrasse et nous jette littéralement à terre. Nous peinons alors à nous lever physiquement, mais nous sommes aussi en nous-mêmes, repliés, recroquevillés à l'intérieur de nous-mêmes. Un peu, Jean-Luc, comme Élie, que nous avons évoqué la semaine dernière. Nous nous recroquevillons dans le creux du rocher, dans l'obscurité de notre peine. Et c'est pourquoi il me tenait à cœur que nous puissions écouter ce magnifique récit des pèlerins d'Emmaüs. Il y est justement question de se lever. Alors je rappelle très brièvement le contexte. Après la mort de Jésus, deux disciples désemparés partent pour Emmaüs. Un inconnu se joint à eux et relie avec eux les Écritures, cherche à ouvrir le sens des événements. Et nous écoutons maintenant la fin de cette histoire qui nous est lue par Florence Guémy.
Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent, « Le Seigneur s'est réellement réveillé. » Et il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain.
Après ce morceau, The Flower of Magarly, interprété par Pauline Griffith, revenons sur cette histoire que nous venons d'entendre. Elle est si connue que chacun, chacune l'aura sans doute au moins lue ou entendue une fois et aura donc symboliquement pris ce chemin d'Emmaüs.
Oui, cette histoire, comme d'autres, et je pense aussi à la parabole du fils prodigue, est une des merveilles de l'évangile de Luc. Bien des pages Jean-Luc ont été écrites et continuent de s'écrire sur ce chemin d'Emmaüs. Mais aujourd'hui, donc, nous la lisons au regard de ce geste, ils se levèrent.
Nathalie Chaumet, ce geste marque un avant et un après.
Exactement, et c'est pourquoi ce geste est si intéressant. Alors Jean-Luc, bien sûr, chacun de nos gestes sépare le temps. Mais ici, une fois de plus, ce geste vient marquer un basculement de l'histoire. Tout d'abord, ce petit mot, rappelons-le, anistémie en grec, veut dire se lever ou faire se lever, relever, est l'un des deux mots qui a été choisi par les évangélistes pour dire la résurrection. Au matin, dans le tombeau vide, lorsque les anges annoncent la résurrection de Jésus aux femmes, ils le font donc avec deux verbes, geiro, qui signifie éveiller, faire lever, s'éveiller, et anistémie, qui signifie se lever, relever. Alors nous comprenons ici toute la portée théologique, Jean-Luc, de ce verset, en nous racontant que les disciples se lèvent. L'évangéliste Luc nous dit deux choses, qu'ils se lèvent physiquement, mais aussi qu'ils se lèvent ou se relèvent dans cette espérance de la résurrection, donc. Et nous comprenons, nous autres lecteurs, que leur vie est à ce moment-là soulevée d'espérance.
Nathalie, pour saisir l'ampleur de ce soulèvement d'espérance, il faut aussi comprendre l'ampleur du bouleversement que ces deux disciples traversent.
Oui, c'est vrai, Jean-Luc, l'élan de vie que ce geste représente ne se comprend que si nous mesurons finalement la désolation qui a mené les disciples sur ce chemin d'Emmaüs. Cléophas et l'autre disciple qui n'est pas nommé ont été profondément marqués donc par la crucifixion. Ils ne faisaient pas partie des 12, mais nul doute que Jésus représentait pour eux beaucoup d'espoir, les espoirs que la figure du Messie incarnait. La crucifixion de Jésus sur la croix balaye toutes leurs attentes. Jean-Luc, elle ouvre la porte du désespoir. Au-delà du supplice terrifiant auquel les disciples ont assisté, c'est aussi vers eux-mêmes qu'ils se retournent. C'est en vain donc qu'ils ont suivi Jésus sur les sentiers de Galilée. Alors Jean-Luc, ce chemin d'Emmaüs, je l'appelle souvent le chemin des pas perdus, car les disciples vivent un temps de désorientation. Vers qui, vers où, aller, pour qui, pour quoi faire ? Évidemment, ce chemin d'Emmaüs, d'une certaine manière, c'est aussi le nôtre chaque fois que nous perdons un être cher, et ce d'autant plus lorsque le décès de la personne aimée est brutal, violent. Dans la mort, lorsque l'être cher qui vient à décéder a pu aller jusqu'au bout de son chemin, alors son départ résonne plutôt comme un point d'orgue paisible d'une vie aussi accomplie que possible. Mais lorsque la mort, Jean-Luc, surgit par surprise, en plein élan d'existence, il faut affronter le vide, la perte brutale de l'être cher, le non-sens du départ survenu trop tôt, hors des cadres de l'imaginable. Pourra-t-on alors survivre au chagrin ? Vers qui, vers quoi, vers où aller lorsque l'amour partagé orientait l'existence ? À quelle boussole se fier ? Voilà, ce sont un peu toutes ces questions que ce récit d'Emmaüs nous pose, nous raconte, il nous parle à nous-mêmes lorsque nous traversons cette épreuve d'un deuil tragique, ou même parfois tout simplement la désillusion d'une très grande espérance. Mais revenons au récit. Sur ce chemin, Jésus a rejoint les disciples. Il a relu avec eux les événements. Il accueille leurs questions. La croix peut-elle avoir un sens, faire sens, prendre un sens dans l'existence des disciples ? Cheminant avec les disciples, Jésus interroge les Écritures, interprète la parole, la tragédie de la crucifixion. Et peu à peu, cette butée de la mort, ce non-sens de la croix, commence à s'éclairer d'un regard différent. La mort de Jésus devient un don de vie en abondance, Jean-Luc. La lumière des anges au tombeau manifeste l'amour en Christ plus fort que la mort. Oui, peut-être que peu à peu, sur le chemin, les disciples entrent dans cette grande espérance de la mort vaincue que nous chanterons à Pâques. Et peu à peu, leur cœur se réchauffe. Ils n'ont pas tout partagé pour rien. Une espérance nouvelle germe en eux.
Nathalie Chaumet, nous comprenons que les disciples entrent doucement dans l'espérance de Pâques et ce récit qui nous partage leur espérance nous invite aussi à espérer de cette même espérance. Mais à l'épreuve du deuil, espérer devant le réel brut de la mort est loin d'être évident. Et nous sommes souvent engloutis aussi par le désespoir, il faut le reconnaître.
C'est vrai, nous ressemblons d'autant plus alors à ces pèlerins d'Emmaüs. Dans le pas à pas de l'existence, nous dialoguons parfois avec nous-mêmes en vase clos, tentant de nous raconter une fois encore ce qui s'est passé, de mettre en mots l'indicible. Et nous butons parfois sur les événements, sur l'incompréhensible, sur l'insurmontable. Nous sommes sur ce chemin qui semble ne mener nulle part, ou plutôt qui nous fait tourner en rond. Sur ce chemin, Jean-Luc, la présence d'un tiers, d'un thérapeute, d'un ami peut nous aider à tracer un chemin de parole. Il s'agit, nous dit Wajdi Mouawad, de ramener la douleur dans l'humanité de la parole, de lui donner à travers l'alchimie du langage de sortir de l'indicible, de devenir récit, mémoire. Et je crois que l'une des vocations de ce récit, c'est de nous rappeler à l'essentiel compagnonnage en humanité pour que la souffrance ne soit pas redoublée de la solitude. Mais ce chemin, c'est aussi celui où nous questionnons la présence de Dieu. Nous lui crions notre colère, nous pointons son silence, son impuissance, nous implorons parfois aussi en même temps sa présence, comme les disciples implorent Jésus alors que le soir tombe au seuil de l'auberge. Reste avec nous. Lorsque Paul évoque l'espérance d'Abraham dans l'Épître aux Romains, il dit qu'il a espéré contre toute espérance. Reste avec nous, c'est peut-être ce que signifie cette prière des disciples à Jésus. Donne-nous d'espérer contre toute espérance. Et Jésus entre donc à l'auberge avec les disciples. La promesse de ce récit d'Emmaüs, Jean-Luc, c'est que Dieu est de tous nos chemins, même les plus difficiles.
Alors dans le récit, le soir tombe et il fait nuit. Et nous voici donc à l'auberge, probablement dans la pénombre, peut-être à la lumière tamisée d'une bougie ou d'un feu, et Jésus rompt le pain. Et c'est un véritable saisissement qui s'opère, on pourrait dire presque un éblouissement.
Eh bien, la vie nous offre parfois des moments de grâce, des moments tout à la fois de discernement, d'apaisement mêlé, comme certaines paroles, certains gestes, Jean-Luc, sont de lumière. J'entends par là qu'ils illuminent nos âmes de joie ou d'espérance. Jésus prend le pain, ce n'est qu'un morceau de pain. Et ce pain-là, le pain de l'auberge, le pain de la route, n'est rien d'autre que du pain ordinaire. Mais ce geste du pain rompu manifeste soudain, pour les disciples, la présence du Christ dans leur vie. Il dessille leur regard. Ce n'est plus seulement le réel qu'ils discernent, mais la présence du Christ dans leur vie.
On le comprend, ce pain rompu rappelle en effet aux disciples l'histoire partagée avec Jésus et toute la richesse de ce qu'ils ont vécu.
Eh bien, sans doute qu'au moment où Jésus partage le pain, les disciples se souviennent du pain de la route, des repas chez l'habitant, mais aussi de la multiplication des pains au bord du lac, et bien sûr de ce dernier repas, cette nuit de l'arrestation, lorsque Jésus a annoncé le don de lui-même, le corps livré, le sang répandu. Mais Jean-Luc, c'est un rappel qui va bien au-delà du souvenir, car le souvenir nous projette au passé comme lorsqu'on regarde avec émotion des photos d'un temps révolu. Le souvenir a le reflet de la nostalgie. Ici, le geste de Jésus vient faire mémoire, c'est-à-dire qu'il rend perceptible au présent la force de l'amour partagé. Soudainement, leurs yeux s'ouvrent. L'amour du Christ est une nourriture pour aujourd'hui et il est à partager encore et encore. Voilà aussi ce que nous dit ce récit. Et vivre de ce partage, eh bien, c'est reformer cette communauté des vivants avec qui partager le pain, c'est se relier, c'est refaire alliance, c'est réouvrir les chemins vers demain, c'est faire de l'espérance le pain du quotidien. Et c'est donc alors que les disciples vont se lever.
Alors ce geste de Jésus, Nathalie, dit la présence du ressuscité dans la vie des disciples, on le comprend. Mais au moment où ils le reconnaissent, et c'est là tout le paradoxe, il devient invisible à leurs yeux. Impossible pour eux donc de le retenir.
Oui, Jean-Luc, c'est un passage important, celui qui nous raconte comment Jésus devient invisible aux yeux des disciples, alors même qu'ils le reconnaissent. Car je crois qu'il nous donne de comprendre que ce récit se lit bien sûr à plusieurs niveaux. Il est la reconnaissance par les pèlerins du Christ sur leur chemin, et il invite le lecteur à entrer à son tour dans cette espérance de Pâques, à faire ses propres pas dans la foi. Or, la foi, celle des disciples hier, la nôtre aujourd'hui. La foi, Jean-Luc, est de l'ordre de l'insaisissable. On ne peut pas mettre la main sur une confiance d'être ou sur une espérance. C'est comme une eau vive qui vous file entre les doigts pour tracer son chemin, ou c'est comme tenter de saisir le vent. Eh bien, je crois que c'est ce qu'exprime cet effacement de Jésus dans le récit au moment même où ils le reconnaissent. Cependant, ce n'est pas parce qu'elle est insaisissable que la foi n'est pas réelle, vivante. Rien de plus insaisissable, par exemple, que le vent, et rien de plus vivifiant et décoiffant, parfois, Jean-Luc. Ainsi, la foi est ce mouvement intérieur qui nous mobilise pour chercher comment vivre au mieux les uns avec les autres, les uns pour les autres, dans cette espérance en Christ. Alors, pour exprimer cette foi qui les habite, les disciples évoquent en eux-mêmes l'image du feu. Le feu, dans sa fonction positive, c'est ce qui éclaire et réchauffe, il réconforte. Eh bien, Jean-Luc, la foi, c'est cette confiance d'être en Dieu dans la grâce de l'amour que le Christ nous manifeste. Et cette confiance réchauffe notre cœur. Cette confiance devient agissante, elle nous suscite et parfois nous ressuscite pour répondre à l'appel de la vie, pour partager cette joie intérieure reçue.
Alors cependant, il faut le reconnaître aussi, il aura fallu quand même du temps aux disciples pour reconnaître la présence du ressuscité dans leur vie. Ces quelques heures de catéchisme sur la route avec Jésus ne leur ont pas permis, à ce moment-là en tout cas, de le reconnaître.
Eh bien, ce mouvement de la foi, c'est vrai, nous ne le discernons pas toujours tout de suite. Parfois, c'est une toute petite étincelle dans notre vie et il n'est pas si facile de la nommer, de la reconnaître. Il faut parfois du temps. C'est souvent dans l'après-coup que nous saisissons l'insaisissable de la foi, que nous reconnaissons, que nous nommons la présence de Dieu sur nos chemins.
Nathalie, le mouvement est intéressant. Les disciples sautent sur leurs pieds, portés par une espérance nouvelle. Ils se lèvent soudainement. Mais en réalité, c'est peu à peu que l'espérance a déverrouillé leur cœur.
Oui, et nous pouvons prendre une image que Jésus, Jean-Luc, utilise lui-même dans ses paraboles. Il évoque le levain qu'une femme prend et mélange à la farine qu'elle pétrit tant et si bien que le pain lève. En français, nous pouvons jouer sur les mots, car le mot « levain » évoque aussi le fait de lever, de soulever, de se relever. Eh bien, je crois, Jean-Luc, que ces histoires bibliques sont cela, un puissant levain d'espérance dans la pâte de notre quotidien. Voilà, ce récit des pèlerins d'Emmaüs nous invite à une double écriture du mot « résurrection ». La résurrection avec un grand R, celle que j'appelle la grande espérance, le relèvement de Jésus d'entre les morts. Cette espérance de Pâques nous appelle dès lors à la confiance. Elle nous dit qu'aussi incertain que soient nos chemins ici-bas, nous n'y marchons pas seuls et notre destinée est dans l'amour de Dieu. Et puis notre propre résurrection, nos propres résurrections avec un petit R, nos relèvements des épreuves au cœur des difficultés de l'existence. C'est à vivre que nous sommes appelés à vivre et à partager. Et ce récit d'Emmaüs nous raconte cet appel. Il cherche à retourner nos pas du découragement vers la vie pour que nous y cherchions comment vivre, aimer, partager cette espérance. Jean-Luc, il y a chez Angelus Silesius cette parole qui résume bien plus simplement tout ce que je viens de dire. Il écrit « À quoi te sert que le Christ se relève de la mort si toi, tu restes couché ?» Voilà, alors il faut s'entendre, hein, Jean-Luc, dans le deuil, le relèvement n'est jamais d'un jour. Nous faisons sans cesse des allers-retours sur ce chemin des pas perdus entre chagrin et appel à vivre. Et ce mouvement à accomplir pour se relever de l'épreuve, n'est jamais d'une seule fois. C'est un mouvement qu'il nous faut, je dirais, presque sans cesse refaire. Dans le deuil, chacun connaît des moments parfois un peu plus paisibles, des moments presque heureux et d'autres où le désespoir l'emporte de nouveau ou brutalement. Nous sommes ramenés en arrière par une vague de tristesse. Et puis je crois que dans les deuils les plus douloureux restera toujours une part d'inconsolable. Mais vivre, ce n'est pas oublier. Vivre, c'est transmettre ce qui a été partagé, transmettre ce pain rompu de l'existence, donner, redonner, suivre encore une fois Jésus sur ce chemin de l'amour, du don et du pardon.
Et justement, Nathalie, en réalité, les disciples ne vont pas que se lever, ils retournent à Jérusalem.
Jean-Luc, voilà encore un élément important, merci. Lorsque nous réfléchissions sur ce petit geste se lever avant l'écoute de ce récit des pèlerins d'Emmaüs, nous avons oublié de dire que nous ne faisons pas que nous lever. Nous nous levons toujours, enfin je crois, pour. Voilà. Et ce pour est parfois très prosaïque. Nous nous levons pour sortir, pour faire des courses, pour rencontrer un ami, mais pour conduire les enfants à l'école, pour ouvrir la porte. Se lever, c'est donc faire un pas dans l'existence, c'est-à-dire étymologiquement sortir de soi et aller vers la vie qui nous appelle, vers les vivants, avec cet invité de tous nos pas que nous nommons Christ. Dans un petit recueil de prières de la communauté des diaconesses, je lis ceci. Ô toi qui toujours nous relève, nous renouvelle et nous entraîne, donne-nous la simple confiance pour aller.
Alors voilà quelques mots simples en effet, mais plein de sens pour entrer dans le relèvement, le renouvellement, l'élan dans notre vie. Voilà un dernier geste qui nous appelle à cette audace de la vie portée par l'amour du Christ. Pasteur Nathalie Chaumet, vous m'avez confié vouloir terminer cette émission, mais aussi l'ensemble de ce parcours proposé pour ce carême protestant, avec justement un poème de Sœur Myriam qui fut prieure de la communauté des diaconesses. J'en profite d'ailleurs pour signaler que ce matin dans Solae, je proposais une émission spéciale en immersion au sein de la communauté des diaconesses de Reuilly à Versailles, qui peut être écoutée encore sur le site de France Culture ou l'application Radio France.
Oui Jean-Luc, et c'est l'occasion de saluer toute la communauté et la manière dont les sœurs cherchent à être de lumineux témoins de la grâce du Christ. Alors ce poème de sœur Myriam est très long, nous n'allons en écouter que quelques extraits, ils suffiront, je l'espère, pour envoyer chacun et chacune. Ce poème cherche à dire l'appel du Christ.
Je vais vous montrer une voie par excellence, un chemin plus clair que les routes de printemps, un chemin ouvert au milieu des champs de blé. Je vais vous montrer une voie par excellence, vous tomberez et vous vous relèverez.
Je vais vous montrer un sentier à peine tracé au milieu des rochers. Je vais vous donner des mains de compassion, des mains de guérison. Je vais vous donner des mains toujours ouvertes, je vais vous donner des mots pour ressusciter les morts.
Je vais vous donner un cœur qui bénit, je vais vous donner des mains qui pardonnent, je vais vous donner abondance de vie.
Je vais vous montrer le chemin de la joie, vous espérerez tout le salut du monde.
Un chant parmi les pleurs, une danse au milieu des nuits, je vais vous montrer une voie par excellence, et c'est pour maintenant, et c'est pour aujourd'hui, et c'est à jamais.
Merci Nathalie Chaumet, merci Florence Guémy. Nous remercions aussi Pauline Griffith de nous avoir confié ces superbes temps musicaux à la harpe. Tout au long de ce carême, nous aurons donc traversé des gestes simples et décisifs, jeter un filet, porter un brancard, répandre un parfum, toucher un vêtement, affronter la violence, se lever à nouveau. Des gestes qui ne sont ni magiques ni héroïques, mais profondément humains et profondément évangéliques. Ils nous auront rappelé que l'espérance chrétienne ne se dit pas seulement en paroles, mais qu'elle s'incarne dans des choix, des attitudes, des engagements, alors parfois minuscules, parfois risqués, mais toujours porteurs de vie. Sur ce chemin vers Pâques, Nathalie Chaumet nous aura invité à une audace humble et joyeuse. C'est celle de croire que Dieu continue de faire toutes choses nouvelles, à même nos fragilités, nos doutes et nos fatigues. Alors que ces gestes, reçus comme des paroles vivantes, continuent de nourrir notre aujourd'hui et de raviver en chacun de nous le courage d'être, avec reconnaissance et avec joie. Solae, le carême protestant, vous était proposé par la Fédération protestante de France en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. Merci à Thomas Jost pour la réalisation et merci à Marie-Claire Oumabadi pour la prise de son. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Les éditions Olivetan éditent comme chaque année un livre, Des gestes pour espérer, qui correspond à ces conférences avec quelques ajouts complémentaires. Il est vendu au prix de 15 euros avec avec les frais de port en plus. Les commandes peuvent être réalisées en ligne sur le site internet www.éditions-olivetan.com. L'ouvrage sera envoyé directement par voie postale. Et maintenant, sur France Culture, eh bien, je vous laisse avec le carême catholique.